Vous écoutez France Culture.
Les lundis l'histoire, Michel Perrault, bonjour. L'histoire s'ouvre sans cesse à de nouveaux objets. Elle découvre de nouveaux horizons et de nouveaux acteurs en fonction des préoccupations du présent la plupart du temps. La dimension écologique actuelle l'a rendue attentive au climat, au paysage, aux arbres, à la météorologie, sur laquelle Alain Corbin vient de publier un livre collectif très séduisant, « La pluie, le soleil et le vent », une histoire de la sensibilité au temps qu'il fait et qui vient de paraître chez Aubier. Voici qu'à leur tour, les animaux entrent dans l'histoire. Les anthropologues, les philosophes, on va en parler, avaient depuis quelques décennies précédé les historiens, longtemps rétifs à les considérer autrement que comme des choses, des comparses, des forces productives, utiles, ou des éléments de distinction. On pense par exemple aux travaux très neufs de Daniel Roche sur le cheval. Éric Barathet et Damien Baldin, mes invités d'aujourd'hui, inaugurent une autre démarche qui renverse les perspectives en mettant l'animal au centre du récit, en tentant de saisir le point de vue animal, selon la formulation d'Éric Barathet dans un livre pionnier. Nous en discuterons. Mais d'abord, que je vous présente mes invités. Éric Barathet, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lyon 3. Vous êtes spécialiste de l'histoire des animaux. Et depuis 1995, vous avez publié une dizaine de livres sur la corrida, l'église à l'animal, bêtes de somme, etc. Et en 2012, le point de vue animal, une autre version de l'histoire qui est parue au Seuil. Aujourd'hui, vous revenez à la charge, si j'ose dire, avec « Bêtes des tranchées, des vécus oubliés », publié au CNRS en 2013. Et c'est ce vécu des bêtes, chevaux, chiens, pigeons, mais aussi d'une autre manière, rats, poux, et toutes les petites bêtes qui fourmillent à l'intérieur des tranchées. C'est tout cela que vous essayez de rendre sensible et de faire vivre, en quelque sorte. Damien Baldin, vous êtes un jeune historien, agrégé d'histoire, chargé d'enseignement à l'École des hautes études en sciences sociales, et présentement conseiller à la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, ce qui est un passionnant travail dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Votre recherche vous a permis d'élaborer une histoire plus générale, la thèse que vous préparez sur la police des chiens au 19e et 20e siècle, vous a en somme introduit dans cette histoire générale des animaux. Et aujourd'hui, vous nous donnez une histoire des animaux domestiques 19e, 20e siècle qui vient de paraître 2014 au Seuil. La domestication des animaux, ses agents, ses formes, ses objets, c'est l'axe majeur d'un livre que vous placez également sous le signe de la guerre. Vous écrivez « Cette histoire des animaux est fille de la Grande Guerre ». C'est même la première phrase de votre introduction. Alors il y a beaucoup de parenté entre vos deux livres, en dépit de différences que nous allons voir. Pour vous, peut-être, Damien Baldin, c'est une approche plus socio-culturelle. Et pour vous, Éric Barathet, peut-être, mais vous me corrigerez si je me trompe, une histoire plus anthropologique, plus écologique, peut-être. Nous allons voir cela. Mais d'abord, en préambule, et avec vous deux, j'aimerais vous demander d'abord, pourquoi est-ce que l'animal a été si longtemps absent de l'histoire? Et comment est-ce qu'il émerge à l'histoire, depuis quand même un certain nombre d'années, mais de manière peut-être renforcée dans les 10 dernières années. Voyons, Éric Baraté, vous qui avez été vraiment un pionnier dans ce domaine.
C'est vrai que ça a été longtemps un sujet mineur. En fait, on a des ouvrages d'historiens sur les animaux dès les débuts du XXe siècle, sur l'histoire des chevaux, sur l'histoire des abeilles, etc. Mais les auteurs, les historiens de l'époque n'ont pas pensé que ça pouvait être un chantier, un champ à part entière, les animaux. Et souvent, ils venaient avec des problématiques d'histoire de l'agriculture ou d'histoire des sciences, avec des problématiques qui venaient d'autres champs. Et ils arrivaient aux animaux un peu pas par hasard, mais finalement par extension de leur champ initial. Et l'animal était finalement un exemple en plus dans leur champ initial. Et il faut attendre en fait les travaux de Robert Delors pour qu'on ait conscience.
Le médiéviste Robert Delors.
Le médiéviste Robert Delors, qui dans sa thèse sur l'histoire du commerce de la fourrure, a pris conscience qu'on pouvait faire des animaux un véritable chantier historique à part entière. Ce qu'il a ensuite affirmé en 84 avec son livre « Les animaux ont une histoire
oui. ».
Et c'est vrai que depuis...
En 84, quand
en
même.
En 84, hein, bien sûr. Oui, hein. Oui, c'est déjà quand même assez ancien. Et ça se produit à peu près parallèlement aux anglo-saxons qui aussi ont été pionniers dans cette histoire-là.
Oui.
Mais c'est vrai que pour penser que l'animal est peut-être le héros d'une histoire... Encore faut-il, évidemment, avoir une appréciation relativement positive des animaux.
Et pas le considérer comme une chose.
Et pas le considérer comme des objets ou comme des choses sans intérêt.
Oui, Damien Baldin, vous développez beaucoup l'historiographie dans votre livre que nous venons de citer.
Je pense qu'il y a...
Vous voyez ça ?
Il y a deux raisons principales qui tiennent d'abord à la société dans laquelle nous vivons. Nous savons que l'historiographie est aussi justement cette fille et les filles d'une époque d'un questionnement. L'émergence de la question, elle tient aussi à la croissance dans le débat public de la question des animaux, notamment du débat qui vient des pays anglo-saxons pour une réévaluation philosophique et ontologique des animaux qui va donc contribuer par l'essor de l'éthologie, notamment de la philosophie, à réévaluer positivement l'existence des animaux, et puis l'importance accrue dans nos sociétés des animaux de compagnie et de l'attention et de l'anthropomorphisme projeté sur eux. Et puis je crois qu'il y a une raison dont on parle assez peu qui est propre à l'historiographie. Je crois que les animaux touchent aussi à notre intimité, et je crois que comme l'histoire de la violence, comme l'histoire de la sexualité, dont Alain Corbin et Stéphane-Audouin Rousseau nous disaient qu'il y avait sans doute une forme de pudeur universitaire à aborder ces sujets, je crois que la question des animaux, parce qu'aujourd'hui, le rapport à l'animal de compagnie est extrêmement intime et extrêmement, extrêmement puissant, je crois qu'il y avait aussi une sorte de pudeur chez les universitaires, chez les historiens, à ne pas aborder ce sujet, et puis aussi parce qu'il était sans doute considéré comme très mineur et comme renvoyant justement à une image pas très sérieuse qui est celle justement de l'animal de compagnie et qu'un historien universitaire ne pensait pas justement que ce phénomène-là pouvait avoir cette richesse historiographique aussi dense et telle que le montrent les travaux d'Éric Baraté.
Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, Éric Baraté, j'allais dire presque des raisons philosophiques, justement, vous les abordiez tout à l'heure, le fait que l'animal, il y a une frontière entre l'humanité et l'animalité.
Bien sûr, c'est très sensible en France.
Très sensible en France.
Ah oui, beaucoup plus que dans les pays anglo-saxons où on pense beaucoup plus à continuité. Nous sommes quand même encore influencés, dans le monde universitaire en particulier, et pas simplement d'ailleurs les sciences de l'homme, mais les sciences de la nature aussi. Nous sommes très influencés par le discours cartésien de la rupture entre les hommes et les animaux.
Oui.
Et c'est très net. Et lorsque je travaille avec des éthologues, des psychologues, etc., ils ont encore, les Français en particulier, ont encore beaucoup de mal à sortir d'une approche anthropocentrée. Ils se rendent compte maintenant des problèmes que pose cette approche anthropocentrée. Mais ils ont tellement peur de tomber dans l'anthropomorphisme et de faire une confusion homme-animal, etc., qui a été longtemps condamné en France, alors qu'en fait, le problème, la question n'est pas de faire une confusion, la question est d'essayer de réfléchir à aux rapports hommes-animaux dans toute leur diversité, dans toute leur richesse. Et ils ont beaucoup de mal. Ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons.
Autrement dit, ils sont moins cartésiens.
Ils sont beaucoup plus marqués par la question des animaux-machines. Oui, oui, sont beaucoup plus marqués par Locke et la continuité des êtres vivants.
Oui. Qu'en pensez-vous, Damien Baldin?
Moi, je suis toujours très méfiant quand nous disons que les Français sont cartésiens et qu'il y a une vision très, très machiniste des animaux. Je ne le crois pas. Je ne crois pas que au XIXe siècle, la société française soit plus cartésienne. Et ce serait en plus, à mon avis, confondre une histoire des idées avec une histoire sociale. Et je ne crois pas aujourd'hui, quand vous regardez simplement le phénomène des animaux de compagnie et même le discours ambiant, qui est beaucoup plus un discours justement de sensibilité à l'animal, qui n'est pas dénué d'anthropomorphisme. Ça, je le reconnais très volontiers. Mais je ne crois pas qu'au XXe siècle, la société française ait une vision mécaniste des animaux. Et je crois que l'attention à la fois de la population rurale, la population paysanne et l'attention de la population urbaine pour ces animaux de compagnie me semble aller en contradiction avec l'idée que nous serions cartésiens. Et puis, il faudrait aussi discuter beaucoup de ce cartésianisme. Je crois que l'on accuse Descartes de beaucoup de maux et j'aimerais que les philosophes reviennent très clairement sur la question. Et lorsque vous interrogez des spécialistes de Descartes, ils s'offusquent très facilement de ce stéréotype que l'on accole aux philosophes français.
Oui, Descartes, moi je l'aime beaucoup. Descartes disait « la science n'a pas de sexe ». Il était pour l'égalité des hommes et des femmes. Mais oui.
Oui, je parlais des universitaires, pas de la société. C'est évident, oui. Et il y a une grosse différence entre le monde universitaire et la société. On voit très bien comment c'est la société civile qui a pris en charge l'histoire des animaux bien avant les universitaires. Oui. Et on le voit aussi, par exemple, pour le cas des animaux dans la guerre. La société civile ont pris en charge ça dès les années 80, bien avant les universitaires. C'est là-dessus qu'il y a vraiment... Le monde universitaire est vraiment marqué par ça.
Oui. Distinguons donc bien la société dans son ensemble et les historiens, qui sont un peu à part, alors, en somme. Damien Baldin.
Oui, mais vous pouvez très bien considérer l'animal comme une machine, même si on sait très bien aujourd'hui que ce n'est absolument pas le cas, et en même temps considérer que c'est un objet digne d'intérêt dans l'historiographie. Nous nous intéressons à l'histoire matérielle, il n'y avait donc aucune raison de ne pas s'intéresser à l'histoire des animaux. Donc je ne crois pas que ça tienne uniquement à la vision d'un animal être sensible, être vivant ou simplement machine. Je crois vraiment que... parce que si ça avait été le cas... Les animaux seraient rentrés dans une histoire matérielle, ce qui n'est pas sans doute le cas, même si avec Daniel Roche, on peut remarquer la continuité entre son intérêt pour l'histoire matérielle et son intérêt pour l'histoire des animaux, même si évidemment Daniel Roche ne considère pas les animaux comme des machines.
Bien sûr, il faut redire le grand intérêt des travaux de Daniel Roche sur le cheval. Ça a été un pionnier en l'occurrence. Vous parlez tous les deux de l'intérêt que peut-être avant les historiens, tout de même, en France du moins, les philosophes et les anthropologues ont porté aux animaux. On pense évidemment aux travaux d'Élisabeth de Fontenay et aux travaux d'anthropologues anciens comme Evans Pritchard et récents comme Philippe Descola, dont je trouve l'approche très intéressante. Il me semble que vous en parlez l'un et l'autre, Éric Baratet.
Je ne crois pas que les historiens soient venus après. L'intérêt est parallèle en France. C'est-à-dire que c'est les débuts des années 80. On voit justement quelqu'un comme Élisabeth de Fontenay se mettre à s'intéresser à ce sujet-là. Et ça correspond tout à fait. Il y a vraiment une prise de conscience début des années 80 aussi, qu'on trouve aussi bien chez les ethnologues, les historiens, les philosophes, ceux qui sont vraiment, alors, entre guillemets, beaucoup plus réticents et qui ne se sont mis au sujet que depuis une dizaine d'années, ce sont les sociologues. Alors là, il y a eu vraiment un poids.
Il n'y a pas beaucoup de travaux en sociologie.
Et il y a encore très peu de travaux en sociologie,
tout à fait. Oui. Alors pourquoi ?
Vous avez une... Alors là, il faudra demander aux sociologues.
Oui, absolument.
Mais c'est vrai que c'est encore relativement restreint.
Alors, Damien Baldin.
Pourquoi les travaux des sociologues intègrent peu la question des animaux dans leurs études? Je crois aussi, c'est que la sociologie, tout comme l'histoire, est une science sociale, une science des hommes en société, et que la sociologie a sans doute été assez méfiante des études animalistes qui plaçaient comme sujet les animaux, et que pour la sociologie, il y avait donc incompatibilité entre le fait de placer les animaux comme sujet, alors que même ils sont une science de l'homme en société, et non pas des animaux en société. Et puis je crois aussi qu'il y a aussi une méfiance naturelle des sciences sociales envers une histoire animale qui utilise beaucoup des sciences cognitives, des sciences un peu plus dures. Et je crois que cette méfiance qui est ancienne de la sociologie et de l'histoire pour les sciences dures a aussi freiné l'étude des animaux dans l'étude sociologique.
Alors, quand on veut faire l'histoire des animaux, comme vous l'avez fait l'un et l'autre, on cherche malgré tout des sources qui en parlent davantage, on voit ça comme tout le monde le fait, et la position qu'on a par rapport aux sources, qu'on essaie d'entendre, fait qu'on entend quelque chose, en définitive.
Oui, et il faut déjà que celui qui écrit accepte de voir et d'entendre les animaux.
Oui, c'est ça.
Parce que les animaux sont des êtres vivants qui ont des capacités de communication, mais on voit très bien d'un texte à l'autre que il y a des gens qui ont envie de les écouter ou de les regarder, puis d'autres qui n'ont pas envie.
Oui.
Il y a des textes remarquables d'artilleurs, par exemple, qui disent « les canons arrivent au galop ». C'est quand même remarquable. Les canons arrivent au galop, comme exemple même de d'occultation totale des chevaux. On peut guère faire mieux. Et puis il y en a d'autres où il y a des descriptions tout à fait intéressantes à chaque page. Et alors évidemment, on n'est pas capable de voir si c'est pas suffisant pour décider s'il voit bien les choses. Par contre, oui. Si on croise et recroise sans arrêt différents types de sources. Il y a par exemple des ornithologues qui ont participé à la guerre et qui aussi ont leurs yeux d'ornithologue et qui ont raconté ce qu'ils voyaient. Si on croise les sources, on arrive à voir ce que les gens ont retenu du monde animal. Et oui. Si on croise cela avec ce que les éthologues nous en disent, ou les gens des neurosciences nous en disent, on arrive à voir une certaine réalité animale.
Oui.
Et pas la réalité, une certaine.
Une certaine réalité. Vous utilisez beaucoup, et on y reviendra, les vétérinaires, les rapports des vétérinaires. Ça, évidemment, c'est très, très important pour la guerre 14-18, pour voir le corps, la souffrance. On l'appréhende en regardant la peau, en regardant les organes. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très riche, là, de ce point
oui,
de vue.
Ah oui, les vétérinaires ont énormément écrit, surtout après la guerre. Et évidemment, là, il y a. Ce sont des gens qui, par définition, voient. Alors, ils voient aussi avec leur culture, ils voient avec leur formation, ils voient avec tous les filtres sociologiques, psychologiques, culturels que l'on peut imaginer. Il n'empêche qu'ils voient quand même des choses. Ils arrivent à nous les transmettre.
Oui. Tout à l'heure, vous me disiez que vous allez publier peut-être des portraits d'animaux ou des biographies animal. Et vous me disiez que ça commençait au XVIIIe siècle. Certains témoignages.
Oui, dès la fin du XVIIIe et surtout au XIXe siècle. Oui. Alors on a à la fois les mémoires d'animaux à la comtesse de Ségur, le mémoire d'un âne, c'est-à-dire des choses totalement inventées. Et puis on voit aussi de véritables biographies d'animaux. Alors ces biographies d'animaux, justement, on est là dans le côté de la lecture, elles sont plus ou moins intéressantes pour qui veut faire la biographie vraiment de cet animal. Il y en a où finalement l'écrivain ne parle que de
lui-même. Oui.
Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis il y en a d'autres où là, ils font vraiment attention à ce que font leurs animaux. Ils ne savent pas forcément bien les expliquer, ces comportements, ou ils ne voient pas forcément tout. Mais quand même, ils ont l'œil et ça nous donne des informations qu'on peut maintenant interpréter.
Tout à fait interpréter.
Et je prends un seul exemple, la girafe de 1827 qui va de Marseille à Paris, enfin qui vient d'Égypte et qui va à pied de Marseille à Paris. On a deux rapports de naturalistes, d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire et puis d'un naturaliste marseillais. Il y a plein d'informations dedans.
Il y a beaucoup d'informations.
Et on arrive très bien à voir comment et pourquoi cette girafe a survécu à son trajet.
Oui.
Et comment elle s'adapte à tout cela. Thank you.
Damien Baldin, votre livre s'appelle donc « Histoire des animaux domestiques, 19e, 20e siècle » et il vient de paraître au Seuil. Le centre de votre livre, me semble-t-il, c'est l'idée justement de la domestication et du domestique. Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par là et quel est l'axe central de votre livre ?
L'idée, c'était justement d'essayer, pour une fois, de formaliser ce que pourrait être une histoire des animaux, une histoire sociale et culturelle des animaux. Et il me semblait que les anthropologues, notamment, avaient développé cette notion de domestication et qu'il ne fallait pas voir la domestication comme un état définitif d'un animal, mais au contraire comme l'ensemble des actions et des discours d'une société sur ces animaux domestiques, sur les animaux qu'elle s'appropriait. Et l'idée était donc de partir du constat qu'une société avait un système domesticatoire, concept développé par Jean-Pierre Digard, l'anthropologue, et que donc j'essayais de caractériser les spécificités de la société française et plus largement des sociétés d'Europe occidentale au 19e et au 20e siècle, leur manière d'agir et de penser les animaux. Et cette idée, c'était aussi pour montrer que étudier les animaux, c'était aussi une manière de mieux valoriser, de mieux mettre en lumière certains phénomènes de l'histoire générale des sociétés au 19e siècle. Deux exemples. La question de l'intimité, la question du rapport au corps, montrer que l'attention progressive aux animaux de compagnie, leur présence de plus en plus marquée au sein des appartements, l'appropriation qui en est faite, venait conforter cette historiographie de l'intimité dont vous-même vous parlez. Montrer également, autre exemple, la question de la sensibilité à la violence. Montrer que s'il y a une attention grandissante pour les mauvais traitements faits aux animaux au 19e siècle, elle ne tient pas simplement à l'attention faite aux animaux, elle tient aussi à une sensibilité beaucoup plus large de la société française au 19e siècle pour la violence et pour le spectacle de la violence. Et que donc cette histoire des animaux, je voulais montrer qu'elle ne pouvait pas être autonome en elle-même et que forcément elle devait s'insérer dans d'autres débats historiographiques, dans d'autres sujets historiographiques. Autre exemple, c'est la question de la fourrière, du contrôle accru du pouvoir public sur la présence des animaux dans l'espace public, l'émergence de la laisse, de l'interdiction de la traction des voitures par les chiens, du nettoyage des rues qui est fait au 19e et au 20e siècle. Et que cette histoire des animaux-là, elle s'intégrait dans une histoire bien plus large qui est celle du biopouvoir dont parlait Michel Foucault et du contrôle de l'État, des pouvoirs publics sur les êtres vivants. Et c'était donc pour moi une manière à la fois de valoriser les histoires des animaux, de montrer que les animaux étaient utiles, étaient pertinents pour venir enrichir d'autres phénomènes, d'autres aspects de l'histoire sociale et culturelle.
Et même politique.
Et évidemment politique, sûr, et évidemment économique. Et pour bien comprendre, je crois que c'est vraiment la différence fondamentale entre ce que tente de faire Éric Baraté et ce que je fais. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour valoriser les animaux comme sujet. Nous pourrons en discuter. Je suis là pour valoriser les animaux comme objet d'histoire et comme objet incroyablement riche. Et que je crois que, notamment l'histoire des sensibilités, qui est très forte pour le 19e siècle, qui a émergé évidemment, et vous y aviez participé avec Alain Corbin, eh bien que cette histoire des sensibilités, elle avait encore beaucoup de champs à explorer, beaucoup d'objets à découvrir, et que les animaux étaient typiquement un objet incroyablement riche pour les historiens. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu montrer, que les animaux étaient au cœur des mouvements les plus structurants et les plus profonds de la société française au 19e et au 20e siècle.
Autrement dit, une histoire socio-culturelle, politique aussi, de l'ordre dans les villes. Alors, il me semble que, d'abord, une question, les animaux domestiques, qu'est-ce que c'est dans le fond ? Quels sont ceux que... Il y en a qui reviennent sans cesse, mais tout de même.
Alors,
cheval ?
Le cheval,
alors, le chien.
Soit nous avons un inventaire
à la Prévert.
les chiens, les chats, les chevaux, le bétail, mais ce serait penser que un animal serait domestique uniquement par l'appartenance à son espèce. Or, non. Un animal domestique n'est domestique que parce qu'il y a une action des hommes sur lui.
Oui, c'est ça.
Et que nous l'utilisons, qu'il vit au plus proche de nos activités, au plus proche de notre foyer, que nous l'employons et que nous projetons sur lui des affects et des émotions.
Oui, de toute façon, et c'est vrai un peu pour les deux livres, le chat est un peu, comme vous travaillez surtout sur le 19e siècle et la Grande Guerre, il n'y a pas beaucoup de chats. Je pense que si on faisait l'histoire des animaux au 20e siècle, il y aurait beaucoup plus de chats. Bon, les chats des écrivains, les chats qui se blottissent dans les jupes des femmes, vous ne croyez pas ?
Ah mais oui, je le crois. Alors, oui. Je ne sais pas si Éric Baraté sera d'accord avec moi, mais... les chats sont très absents, notamment des archives publiques au XIXe siècle.
Il est fuyant, l'animal, le chat baraté.
C'est un animal fuyant.
Dans les archives, oui. Dans les livres, on le trouve un peu mieux quand même. Un peu plus. Oui. Ce qui est quand même intéressant de voir, c'est qu'effectivement, le chat prend une place croissante de nos jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis 10-15 ans, on est en train de transformer nos chats de compagnie en chiens. C'est-à-dire qu'on leur demande... ce qu'on demandait à partir des années 50 aux chiens.
C'est-à-dire ?
Eh bien, on leur demande une proximité bien plus forte, alors que ce qui valorisait le chat autrefois, c'était la distance. Oui. Le chat des écrivains, c'était la distance. Oui. Le chat devait être indépendant, un peu ingrat, etc., comme les écrivains se pensaient eux-mêmes. Oui. Et on le voit très bien au niveau, quand on regarde les forums internet, on écoute les émissions de radio, télévision, la population actuelle, maintenant, surtout dans les villes, veulent une proximité bien plus forte avec leur chat que ce qu'on demandait il y a 20 ans ou 30 ans. Oui. On est en train de reporter sur le chat ce qu'on demandait aux chiens, alors que le nombre de chiens est en train de diminuer.
Le nombre de chiens est en train de
diminuer ?
Ah oui,
bien sûr.
Ah bon,
oui.
Ah bon, oui, ah bon. Mais enfin, malgré tout, ceux qu'on promène en laisse, c'est les chiens, c'est pas les chats. Hein.
Oui.
Donc il y a toujours une
très
grande
bien
différence.
Sûr, mais je veux dire, au niveau de l'appartement, dans la maison, le fait de vouloir jouer, de parler à son chat, etc., etc., est beaucoup plus valorisé qu'il y a 20 ans, ou au contraire, ce qu'on mettait en avant, c'était la distance, c'était l'autonomie, l'indépendance.
Donc, peu de chats.
Mais il n'est pas impossible
Damien Baldin, nous revenons.
Il n'est pas impossible que ce qu'Éric Baraté décrit à propos des chats ressemble au phénomène que nous pouvons étudier par rapport aux chiens à partir du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, où il y a une véritable domestication, un dressage social des chiens, dont les destinations changent, et que le chien va être un objet... que les hommes vont manipuler, vont modifier, y compris même en termes de manipulation génétique, sur lequel ils vont projeter un véritable dressage. Et la destination de ces chiens errants, commensaux, va se transformer en chiens extrêmement dressés, appropriés. Eux qui étaient vagabonds vont être clairement attachés administrativement et symboliquement à une propriété, et qu'il n'est donc pas impossible que le statut du chat extrêmement indépendant, extrêmement fuyant, sur lui s'exerce de plus en plus un système de contrôle, de dressage, qui vont changer la destination sociale du chat.
Oui. Alors dans votre livre, vous empruntez les principales avenues qui permettent en quelque sorte la domestication de ces animaux, dressés, améliorés. Vous parlez beaucoup de la zootechnie et des différentes procédures scientifiques d'amélioration des races, protégés. Empêcher les violences. Il y a une loi qui paraît importante, la loi Gramont de 1850. Pouvez-vous nous en dire un mot ? Et éventuellement d'autres mesures qui auraient jalonné cette protection des animaux.
Donc 1850, Éric Baraté, je connais très bien le sujet, 1850, c'est le vote de la première loi en France qui transforme les mauvais traitements sur les animaux domestiques en infraction pénale. Sur les animaux domestiques, uniquement si le mauvais traitement est public. Cette loi fait de l'infraction une contravention, et elle est votée à la fois par la droite conservatrice et par la gauche républicaine. Pour des raisons qui sont sans doute différentes, cette loi, elle est à la fois le résultat d'un certain ordre moral que veut imposer la droite conservatrice en France. Et lutter contre les mauvais traitements faits aux animaux, c'est aussi lutter contre la peur et le fantasme de la violence populaire, puisque le symbole, le stéréotype de la personne qui violente les animaux domestiques, c'est le charretier avec son cheval. L'idée aussi que lutter contre les mauvais traitements faits aux animaux domestiques, c'est aussi améliorer la productivité des animaux à la campagne
ou
en ville.
Trop, bien sûr, ils sont
ils ne servent
rien.
Plus à rien ou ils servent moins bien. Et puis, il y a cette gauche républicaine, Victor Schœlcher appelle à voter la loi. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans la pensée républicaine au 19e siècle une assimilation entre les classes inférieures. Michelet parlait de nos frères inférieurs, ces oubliés de la société qu'étaient le prolétariat, les femmes, les enfants et les animaux. Et donc il y a ici
une espèce de tissu
extrêmement clair que nous pouvons très clairement aussi retrouver aujourd'hui. Quelqu'un qui défend les animaux aujourd'hui, qui est militant, peut avoir un background politique à droite comme à gauche. D'ailleurs. Et c'est un sujet extrêmement important, notamment à la fin du 19e siècle, lorsque la République s'installe, Troisième République, la République va mener une véritable propagande autour de la loi Gramont et que l'attention faite aux animaux est au cœur de la morale républicaine de la Troisième République.
On le voit dans les livres scolaires, par exemple. Ne pas faire de mal aux animaux.
La loi Gramont est affichée dans les écoles et le sujet est un sujet récurrent des concours. On encourage même des sociétés scolaires de protection
des animaux.
Et c'est une manière, mais ça je pense qu'Éric Baraté pourra en parler mieux que moi, c'est aussi une manière pour la République d'affirmer une philosophie laïque qui s'oppose à la philosophie chrétienne qui a une vision... Pour le coup, on pourrait presque dire, même si j'aime pas le dire le terme cartésienne, des animaux. Donc, c'est aussi, voilà, cet exemple, c'est aussi une manière de montrer toutes les ramifications absolument incroyables. Et là, on le voit, on est parti du sujet pénal de l'émotion. Et là, nous arrivons au sujet politique absolument passionnant. Cette loi Gramont, il faut plus d'un siècle pour qu'elle soit améliorée, puisque la seconde loi, je crois que c'est 1963, crée un deuxième type d'infraction, puisque cette fois-ci, on crée l'acte de cruauté, qui devient un délit. Et c'est pour ce délit-là que le jeune homme qui a fait le buzz il y a quelques semaines a été condamné à 1 an de prison.
Oui, en effet. Alors, dans votre livre, vous montrez le rôle des institutions, des sociétés, par exemple la Société protectrice des animaux, où les femmes étaient très actives. Il y a un féminisme allié, en quelque sorte, à la cause des animaux qui est très grand. Et vous montrez aussi la création de lieux, comme les chenils et les abattoirs. Alors, on voit bien pourquoi. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de ces lieux, par exemple ? Chenil, abattoir, quelle place ça tient dans l'histoire de la domestication des animaux ?
Alors, plutôt fourrière que chenil.
Plutôt fourrière que chenil. Vous avez raison. Oui.
Fourrière et abattoir sont pour moi les deux exemples du phénomène d'enfermement, dont parlait évidemment Michel Foucault, et qui mettent à distance de la société les pratiques de violence faites aux animaux. Il y a en fait une véritable compartimentation. Les sociétés occidentales tolèrent de moins en moins publiquement la violence faite aux animaux, et pourtant elles ne vont cesser de l'exercer, mais de l'exercer le plus loin possible et de manière la plus invisible possible. La violence de l'abattage devient peu à peu intolérante aux sensibilités de la société, notamment du XVIIIe siècle. Dès le XVIIIe siècle, nous voyons des promeneurs éclairés ne plus supporter de voir ces bouchers abattre en plein cœur de Paris, les bovins, de voir ce sang couler. Mais la société consomme de plus en plus de viande. Il faut donc abattre de plus en plus de bovins. Il faut donc à la fois, la société doit résoudre cette sensibilité au spectacle de la violence, cette intolérance croissante, et en même temps la nécessité de continuer ces actes de violence. Les abattoirs vont donc devenir des lieux d'enfermement, de mise à distance de ce qui est devenu intolérable à voir. Et c'est, la fourrière répond aux mêmes exigences, une attention de plus en plus grande aux chiens, qu'il faut protéger de la violence, mais dont il faut aussi se méfier, car il véhicule des maladies, car son errance et sa possible agressivité font peur à la population. Il faut donc deux solutions. Soit attacher le chien à la propriété et en faire un bon chien, attacher à un maître et en faire un objet de propriété, soit tout simplement l'éliminer. Et les fourrières vont devenir les lieux de l'élimination physique des chiens, d'abord par pendaison notamment, et puis à Paris à partir des années 1880, par des chambres à gaz qui, chaque jour, vont éliminer des dizaines de chiens pour à la fois répondre à une exigence d'hygiène, de propreté et de sensibilité visuelle et olfactive d'une population de plus en plus sensible aux odeurs, à la peur de l'agression des chiens, et en même temps cacher cette mort que ne pourrait plus supporter la population de plus en plus attachée à ses propres chiens.
Vous citez beaucoup de textes, notamment il y en a un qui m'a beaucoup frappé, de Jean Reynaud, qui était un collègue, ami, enfin même disciple de Pierre Leroux, et qui dit que on ne peut plus supporter le sang, la vue du sang, hein, la vue du sang animal dans les rues, l'odeur aussi des bêtes mortes. Il montre ça très très bien. Et il y a aussi cette idée dans les abattoirs de faire mourir, mais en essayant de faire moins souffrir. Hein. Ça, c'est toute cette chose qui finit par gêner d'une certaine manière aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Éric Baratek, quand vous lisez le livre de Damien Baldin, quelles ont été vos remarques à ce propos?
Oui, mais cette histoire je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Damien Baldin, hein, sur ce recul, cette volonté de mettre à l'écart, etc. Et ça rentre tout à fait en contradiction aussi avec cette question de la souffrance animale, parce qu'on a beau mettre à l'écart, il faut quand même tuer. Et l'idée de tuer devient de plus en plus problématique, d'où les inventions multiples qu'on fait entre fin 19e et milieu 20e sur les manières de tuer les moins violentes possibles. Alors il y a des manières les moins violentes même pour les hommes, elles ne sont pas forcément moins violentes pour les animaux, mais elles apparaissent moins violentes pour les hommes. Puis il y en a d'autres qui sont quand même moins violentes aussi pour les animaux. Et là on a une autre contradiction que soulignait Damien Baldin. C'est vrai que c'est pas du tout évident pour une société de gérer des contradictions aussi importantes.
Et l'histoire des animaux et de leur domestication que vous avez décrite les met tout à fait en valeur. Alors, on va aller plus loin dans le tragique, parce que d'une certaine manière, l'histoire que raconte Damien Baldin est relativement optimiste. Hein, enfin, relativement, je dis bien. Hein, parce qu'il y a quand même une espèce de... Oui, de fraternité, proximité qui se crée avec une sensibilité plus grande. Et puis, nous voilà dans les tranchées avec vous, Éric Baratek, avec les bêtes dans les tranchées. Et là, on retrouve le tragique de la situation animale à la puissance X, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu faire, Éric Baratek, vous qui êtes un pionnier de l'histoire des animaux, en choisissant la guerre ?
Alors, j'ai choisi la guerre pour une question affective. Hein. Comme beaucoup de Français, la guerre est pour moi, cette grande guerre est quelque chose d'important. J'ai essayé de rejoindre là deux sujets, la grande guerre d'un côté, les animaux de l'autre. Et le but, c'était de dire, je ne vais pas essayer de voir quelles sont les représentations des animaux, les moyens de les utiliser, parce que ça avait été déjà fait en partie. Damien Baldin a fait des articles tout à fait importants et intéressants sur la guerre de 14. Et moi, je me suis dit, je vais faire plutôt la manière dont dont les animaux ont vécu cette guerre. Comment ont-ils fait? Et là-dessus, il n'y avait pas grand-chose d'écrit, si ce n'est par quelques historiens du dimanche, historiens amateurs, qui s'étaient déjà posé la question dès les années 80-90, mais qui souvent n'arrivaient pas à retourner les documents. C'est-à-dire qu'ils tombaient très facilement dans une histoire humaine des animaux, dans une histoire des utilisations, mais qu'on n'arrivait pas à savoir ce qui se passait du côté des animaux. Et donc, le livre est organisé sur cette espèce de description d'un itinéraire depuis les réquisitions de ces animaux, en passant ensuite par leur apprentissage, leur éducation, leur arrivée au front, leur transport, qu'est-ce qu'ils font au front, dans quel univers ils se retrouvent, leur peur, leur résistance, les connivences qu'ils se mettent en place avec les hommes, parce que c'est vrai que c'est un événement c'est un véritable paroxysme de violence. Mais les connivences dont vous parliez, que l'on trouve dans le livre de Damien Baldin, elles sont là aussi. Les hommes ont besoin des animaux, on pourrait même dire les animaux ont aussi besoin des hommes. Et donc, après ces connivences, j'ai vu comment ces animaux étaient blessés, touchés, tombaient malades, comment ils étaient soignés. Et puis, je termine avec leur réforme ou leur mort. Donc, c'est un espèce d'itinéraire en se centrant vraiment sur les animaux pour voir ce qu'ils ont vécu.
Et ça, c'est très sensible dans votre livre. Vous essayez, autant que faire se peut, de vous mettre à la place de l'animal en vous demandant toujours qu'est-ce qu'il pouvait bien souffrir, comment il souffrait, qu'est-ce qu'il pouvait sentir. Et on vous suit. Hein. Vous nous entraînez dans cette sensibilité, en quelque sorte, et on arrive, à votre suite, à déplacer le point de vue, alors que pourtant, vous êtes, comme tout le monde, affronté à la non-parole des animaux et au fait qu'il faut utiliser les écrits des hommes, en quelque sorte, pour travailler là-dessus. Mais il y a quelque chose qui... une démarche très particulière, tout de même.
Oui, c'est essayer de se projeter à côté des animaux. C'est ce que font les éthologues.
Oui.
Les éthologues de terrain, une Jane Goodall qui va étudier les chimpanzés, c'est ce qu'elle essaye de faire.
Oui.
Se projeter avec tous les problèmes d'anthropocentrisme, anthropomorphisme, etc., qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser. Mais ça permet évidemment de se poser des questions, ça permet de voir des choses auxquelles on ne pense pas. Hein, par exemple, moi je me demandais toujours pourquoi en 14, les soldats, les cavaliers chargent groupés alors qu'ils se retrouvent devant des fils de fer barbelés, les mitrailleuses allemandes, et donc c'est aller au suicide. Pourquoi le font-ils ? En fait, ils le font parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement avec leurs chevaux. S'ils chargeaient en ligne, par exemple, les chevaux, entendant les bruits, sentant les odeurs de sang, de cadavres, etc., ils repartiraient en sens inverse, ils ne chargeraient pas.
Oui.
Donc il y a besoin, en tenant compte du comportement animal, il y a besoin de charger d'une manière particulière qui s'avère totalement suicidaire pour les hommes. Mmh. Et on voit bien la liaison, justement, parce que s'intéresser au vécu des animaux, c'est aussi comprendre ce qui se passe avec les hommes.
Oui.
Parce que les hommes, elles voient que ces animaux... Il faut en tenir compte. Si, comme c'était dit tout à l'heure, si on est trop violent avec ces animaux, ils ne vont pas travailler.
Oui, vous montrez à plusieurs reprises qu'il y a une résistance. Il peut y avoir une résistance animale.
Ça va de la résistance la plus évidente, c'est-à-dire l'animal tombe malade et meurt. C'est une forme de résistance. Il n'arrive pas à s'adapter à ce qu'on lui fait faire. Et puis, il y a des ruses que les soldats ont très bien vues, hein, comme ce cheval anglais qui avait compris qu'à telle heure, le soir, c'était le moment d'aller faire les corvées de convoi et qui faisait semblant de boiter. Et après, les Anglais se sont aperçus qu'il faisait semblant de boiter au moment où il avait compris que ça serait l'heure d'aller le chercher. Donc, il reportait le travail sur les copains.
Oui.
Ou les ânes, tel groupe d'ânes qui savaient eux aussi, par leur horloge biologique, qu'on allait venir les chercher et qui se cachaient derrière les autres pour qu'on ne les prenne pas eux.
Oui. Autrement dit, il y a une intelligence animale du combat.
Bien sûr.
Où ils se protègent eux-mêmes d'une certaine manière.
Les ânes, lorsqu'il faut monter au front, ils se font prier, il faut les taper, il faut employer la violence. Lorsqu'ils reviennent du front, ils partent en courant. Hein, et on a des textes qui racontent qu'il faut s'écarter parce qu'ils pousseraient tout le monde. Ils veulent s'enfuir le plus vite possible. Donc tout cela, les hommes le voient bien. Ils sont obligés d'en tenir compte. Et donc, ça formalise obligatoirement une grande partie de leur action. Ils ne le disent pas forcément, ils ne le mettent pas noir sur blanc, tout ça.
Bien sûr.
Mais en fait, on voit bien qu'ils en tiennent compte.
Oui.
Les chiens, c'est la même chose. Les pigeons voyageurs, c'est pareil.
Oui, Éric Baratet, vous parlez des chevaux. C'est quand même le grand objet, malgré tout. Plus que les chiens... plus que les pigeons voyageurs qui sont très importants, c'est quand même encore le cheval qui est
oui,
là.
Oui, alors là, en grande partie pour des raisons de source. Là, l'historien se retrouve totalement pris par ses sources, parce que 80% des sources sur la guerre, c'est quand même les chevaux. La littérature des vétérinaires, elle ne parle que des chevaux. Les chiens, on trouve des choses, mais c'est très minoritaire par rapport aux chevaux.
Oui.
Là, on a vraiment... on voit très bien comment, par exemple, les vétérinaires, les photographies montrent que les vétérinaires soignent des chiens. Ils les soignent en partie. Ils soignent des ânes, ils soignent des mulets. Vous lisez ce qu'ils écrivent pendant et après la guerre. ce n'est que le cheval, quasiment que le cheval. Oui. Et là, on retombe évidemment sur la place du cheval dans la culture occidentale.
Damien Baldin, vous vouliez dire quelque chose à ce
sujet. Sur la question des chevaux, la surreplantation des chevaux dans les sources de la Première Guerre mondiale, s'explique d'une manière extrêmement simple, c'est que le cheval est le moteur des armées modernes du XXe siècle. Alors que les chiens, les pigeons voyageurs sont vraiment des animaux utilisés à la marge, qui n'ont pas la centralité tactique et stratégique des chevaux. C'est donc le reflet d'une culture équestre qui est celle du XIXe siècle, mais c'est aussi la réalité tactique des armées du XXe siècle. Et il ne faut pas oublier que jusqu'à très tard dans le XXe siècle, les armées de la Seconde Guerre mondiale emploient encore plus de chevaux que ceux de la Première Guerre mondiale. Ne jamais oublier que la Wehrmacht, qui envahit l'URSS à partir de juin 1941, est sans doute l'armée la plus... qui utilisent le plus de chevaux. Et que donc cette importance des chevaux dans les sources est le reflet de leur importance économique et militaire
dans la guerre,
au XXe siècle dans la guerre.
Bien entendu. Éric Baratet, quelle a été l'importance des pertes? Parce que beaucoup de chevaux sont tués.
Oui, alors c'est très variable selon les pays. Et là, on retombe sur les approches culturelles. Si on prend que les taux de mortalité, côté britannique, on est autour de 15% de taux de mortalité. Côté français, on est
40%. 40%. Comment est-ce qu'on explique ça?
En grande partie, ça vient des différences de traitement, des différences aussi de prévention. Il y a dans les régiments anglais des vétérinaires, il y a ce que les Anglais appellent les hommes des chevaux qui sont là pour conseiller les soldats sur le traitement à avoir vis-à-vis des chevaux ou d'autres animaux. Ce n'est évidemment pas le cas des Français. Oui. Les Français en 14, par exemple, ne descendent très rarement de leurs chevaux, les cavaliers. On ne leur dit
autrement
pas de
dit,
descendre.
Ils les surchargent perpétuellement, ils les fatiguent beaucoup.
Et on se retrouve avec des chevaux qui ont les dos totalement tannés, voire qui ont d'énormes blessures au dos, qui peuvent aller jusqu'à à toucher les colonnes vertébrales. Côté anglais, la cavalerie anglaise est obligée de descendre régulièrement, de déceler de l'écheveau et de marcher à côté.
Oui, autrement dit, il y a une
approche
culture,
totalement différente.
Une culture du cheval qui existe en Angleterre, très supérieure à celle de la France.
Bien sûr, on trouve aussi un peu les Allemands aussi, qui sont très proches des Anglais, les Allemands, les Autrichiens, et puis de l'autre côté, il y a plutôt les Italiens.
Allemand que vous citez dit les Français sont de très bons cavaliers, mais ce ne sont pas des hommes de cheval.
C'est un général anglais,
un général anglais.
Et qui était étonné du fait que justement les Français font comme si les chevaux étaient des machines. On parle d'ailleurs dans les documents de l'époque, on parle beaucoup du cheval moteur. Oui. L'état-major demande d'ailleurs les demandes journalières de l'état-major de faire 50, 60, voire 100 km par jour, plusieurs jours de suite, sont évidemment totalement inadaptées par rapport à ce que peut faire physiologiquement un cheval. On le sait maintenant, c'est évident. Et les Anglais sont beaucoup plus proches de ça là-dessus. On retrouve la même chose avec les chiens, la manière d'éduquer les chiens. On conditionne les chiens en France pour faire, c'est le conditionnement à la Pavlov. Alors que côté anglais, c'est la volonté de tenir compte de la psychologie individuelle et d'avoir un lien extrêmement fort entre les conducteurs de chiens et les chiens.
Autrement dit, traiter le chien comme un sujet.
Comme un individu, ce qui n'est pas du tout le cas côté français. Ça donne des chiens très différents, ils ne peuvent pas faire les mêmes travaux. Et ça donne des relations avec les maîtres, avec les conducteurs très différentes aussi. Côté allemand, on est dans un intermédiaire. Et tout ça, on voit bien, là évidemment, c'est le poids du culturel. Oui. Et on le retrouve aussi dans les transports, la manière dont les Français, les Britanniques transportent leurs chevaux qu'ils vont acheter en Amérique. On a deux manières absolument très différentes. Les Britanniques font attention à leurs chevaux, les remontent périodiquement des ponts internes pour leur faire faire des marches sur les ponts externes. Côté français, on n'a absolument rien prévu.
Oui. Autrement dit, il y a des cultures nationales très différentes. Et là, on pourrait... vos deux livres se rejoignent. Enfin, il y a des problèmes socioculturels dans le comportement individuel.
Ce sont les deux faces du même sujet, effectivement.
Tout à fait. Alors, vous consacrez d'autres chapitres tout à fait passionnants aux chiens. Et puis aussi aux poux, aux puces. Alors là, c'est un autre aspect, bien sûr. Vous ne pouvez pas vous mettre à la place du poux qui a vécu la guerre. Là, on revient plutôt à la souffrance des hommes, malgré oui. tout. C'est très intéressant ce que vous dites.
Ce qu'on voit bien quand même, c'est à oui. quel point, finalement, cette guerre était une aubaine pour ces animaux-là. Hein, par exemple, les rats, les souris...
Ils ont proliféré.
Mais il n'y a rien de mieux que les tranchées. On retourne la terre, on creuse des galeries, on fait des abris, on fait un abri, on met en place un toit avec des branchages de la terre qu'on l'on ramène par-dessus. C'est pain béni pour un rat, pour construire une galerie. Donc évidemment, entre ça et puis la nourriture qui est à profusion, ensuite les cadavres, etc., ce sont de véritables aubaines. Mais il y a aussi... c'est vrai que tout le monde a cette idée des poux, des rats, etc. Mais il y a énormément d'autres animaux dans les tranchées. Il y a beaucoup de chiens, il y a beaucoup de chats.
Il y a beaucoup de chats aussi.
Oui, bien sûr. Mm-hmm. Il y a des chats qui... Alors, il y a beaucoup de chats
qui arrivent à se faire leur trou, si on peut dire, à l'intérieur.
Beaucoup de chatons qui viennent se faire, entre guillemets, adopter par des soldats et qui ensuite prennent possession du territoire. Il y a un très beau texte d'un médecin anglais qui est dans sa tranchée, il y a un chat, le chat du voisinage, le chat du coin, si on peut dire, qui fait sa toilette sur le parapet de la tranchée et qui n'est absolument pas tiré. Personne ne tire dessus, ni les Allemands, ni évidemment les Anglais, parce qu'il a été adopté des deux côtés. Et ce médecin dit, même si moi j'osais monter ma tête et faire apparaître la moitié de mon casque, je recevrai une balle en une demi-seconde. Le chat est là depuis 20 minutes et il fait sa toilette.
Oui.
Et ça répond évidemment à des motifs psychologiques. Les hommes ont besoin de ces animaux pour s'échapper de l'enfer. C'est effectivement retrouver un peu de douceur dans un monde de brutes. Et c'est très important pour eux.
À ce propos, est-ce que vous pensez que la Grande Guerre, la guerre 14-18, a changé quelque chose dans le rapport entre les hommes et les animaux? Qu'est-ce que vous pensez à ce sujet?
Non, je ne crois pas. On trouve, on retrouve dans cette guerre, on retrouve toute la multiplicité, toute la complexité des rapports entre les hommes et les animaux, toutes les contradictions des rapports. Parce qu'à côté de ceux qui aiment entendre les oiseaux, par exemple, il y en a d'autres qui tirent dessus, parce qu'ils ne supportent pas que les oiseaux vivent leur vie alors qu'eux, ils vont peut-être mourir dans le quart d'heure qui suit. Et donc, on a vraiment une multiplicité des rapports avec des contradictions. Ou alors avec des attitudes qui peuvent changer. Quelqu'un qui peut être violent avec un animal va se montrer relativement attentionné avec un autre animal, un autre moment, etc. Non, je ne pense pas que ça ait profondément changé les habitudes.
Non, ça n'a pas profondément changé. Descola a l'air d'attribuer beaucoup d'importance. Enfin, certains anthropologues attribuent beaucoup d'importance à la guerre dans la conscience qu'on a pu en prendre. C'est un autre sujet. Vous parlez à un moment donné de la reconnaissance à la mémoire. C'est une de vos expressions. On est en train de parler de la guerre 14-18, du centenaire, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait sur les animaux?
Bien sûr, il y a beaucoup de journées d'études qui sont en programme sur les animaux pour 14, pour 15, pour 16. Il y a une littérature absolument proliférante, non pas d'historiens professionnels, mais d'historiens du dimanche, au bon sens du terme, d'historiens amateurs, depuis une vingtaine, trentaine d'années, qui montent de plus en plus depuis, avec l'approche du centenaire. Il se produit énormément de choses. Oui, et oui, le cas le plus emblématique, ça a été le film de Spielberg, Cheval de guerre, qui a été produit en 2011 ou 2012, qui reprend un roman pour enfants qui est paru dans le monde anglo-saxon, qui s'appelle aussi Cheval de guerre. Et il y a vraiment une intensité. Ça a été redécouvert à partir des années 80-90. Et là, on voit bien, c'est ce que disait Damien Baldin, il y a toute l'interrogation d'une société occidentale sur l'environnement, sur la nature, sur les animaux. Un phénomène de victimisation, comme pour les soldats. C'est-à-dire qu'on ne peut penser les animaux que comme des victimes. Oui. Et il y a des monuments qui ont été érigés. Il y en a eu après la guerre. Il y a des monuments qui ont été érigés récemment. Le plus célèbre, c'est évidemment celui de Londres, sur une place londonienne, donc monument officiel à tous les animaux morts pendant les guerres, pas simplement la guerre de 14, qui a été inaugurée en 2004.
Les animaux dans toutes les guerres.
Les animaux de
toutes
les guerres.
Aux animaux de toutes les guerres.
Tout à fait.
Avant de nous quitter, je voudrais signaler le livre de Victoria Vanneau, Le chien, histoire d'un objet de compagnie. C'est un livre qui vient de paraître chez Autrement, dans la collection Leçons de choses. Alors, l'auteur est une juriste, historienne du droit et des institutions, et elle analyse la place du chien dans nos sociétés à travers des textes littéraires, des faits divers et des procès, mais surtout à travers le droit. À partir du 19e siècle surtout, on s'interroge sur les droits des animaux, y compris leur droit à l'héritage. Et par conséquent, il y a là quelque chose de très, très intéressant qui complète vos deux livres à tous les deux. Elle va jusqu'à nos jours. Par exemple, elle montre l'extrême intérêt, sinon importance, de la Déclaration universelle des droits de l'animal à l'UNESCO en 1978, une espèce de prise de position universelle sur les droits des animaux. Il y a là évidemment quelque chose de très intéressant. Et on voit bien, à travers le livre de Victoria Vanneau, que l'animal dans tous ses états, les animaux dans tous leurs états, puisque vous dites l'un et l'autre, c'est pas l'animal mais les animaux, véritablement deviennent un horizon et un objet de l'histoire. Les lundis de l'histoire étaient présentés aujourd'hui par Michel Perrault, avec Éric Barattet pour Les bêtes des tranchées, des vécus oubliés, paru aux éditions du CNRS, et Damien Baldin pour Histoire des animaux domestiques, 19e-20e siècle, qui vient de paraître au Seuil. La prise de son était assurée par Antoine Viossa, la réalisation par Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis de l'histoire seront présentés par Roger Chartier. Et dans quelques instants, C'est pas la peine de crier, par Marie Richeux. Au revoir.